Chapitre 12e. La bienheureuse au milieu des novices. Le secret des grandes révélations s'échappe malgré elle et première adoration publique du Sacré-Cœur. 1684-1685. Je vous en conjure, ô filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, dites-lui que je languis d'amour. Après elle, voici que viennent de jeunes vierges. Elles s'offrent pleines de joie et d'enthousiasme. Elle pénètre dans le sanctuaire du roi. En nommant la bienheureuse maîtresse des novices, la mère Melun avait moins cédé à ses attraits personnels qu'à des demandes qui lui arrivaient de toutes parts. La sainteté de notre humble Marguerite Marie commençait à devenir éclatante. De jeunes professes qui allaient sortir du noviciat se déclaraient prêtes à y rester si on la leur donnait pour maîtresse. Des religieuses plus âgées sollicitaient dans ce cas la faveur d'y entrer. Même une ou deux novices, qui avaient eu le bonheur de s'entretenir avec elle, profitaient de la bonté de la mère Melun pour exprimer humblement leur désir. On touchait à l'heure où la sainteté de la bienheureuse allait percer les derniers nuages. Disons d'abord comment était composé le noviciat au moment où Marguerite Marie en prit la direction. La plus ancienne des novices, Claude Marguerite Billet, était de Paray, fille d'un médecin. Le plus fameux de la province, celui qui tout à l'heure était au chevet de la bienheureuse malade et qui l'assistera à son lit de mort. Pleine d'agréments et de belle humeur dans le monde, elle était devenue au cloître une âme tout intérieure. Une fille d'oraison et de silence, dont l'union avec Dieu et l'ardeur pour la sainte communion ne se sauraient pas. Elle était si embrasée de ces divines flammes qu'elle se serait accablée d'austérité pour Dieu si on le lui avait permis. Elle en était insatiable et le plus doux plaisir que l'on pût faire était de lui en accorder. C'était son rafraîchissement délicieux. Liée d'amitié avec la bienheureuse, enthousiaste de ses vertus, elle se mit avec bonheur sous sa direction et commença à courir avec ardeur à l'odeur de ses parfums. Elle fut une des premières à comprendre et à goûter la dévotion au Sacré-Cœur. Elle se plongea dans l'amour de ce cœur adorable et ne tarda pas à être consumée de ses flammes. La seconde novice de la Bienheureuse se nommait Françoise Rosalie Verchère. Elle était fille aussi d'un médecin et avait 12 frères ou sœurs qui, à l'exception de 2, se consacrèrent tous à Dieu. Appelée à la vie religieuse, mais ne sachant dans quel ordre, elle se promenait un jour, plus agitée que jamais, dans un jardin fort agréable d'une de ses parentes. Elle entre dans un cabinet de ce beau jardin et, pour charmer ses ennuis, ouvre un livre qui était sur la table. Par bonheur, c'était la vie de notre vénérable mère de Chantal, et à l'endroit où le céleste amant lui grave son nom sur le cœur, il s'imprima dans l'instant si fort sur celui de cette jeune amante qu'elle se sentit éprise de son feu divin et résolue à être fille de la visitation. La mère greffier la reçut avec joie, ne lui ménagea pas les épreuves pour se bien assurer de son courage. Puis, la voyant vaillante et intrépide, elle résolut de la mener au plus haut sommet. On peut dire qu'il n'est guère de cime où elle ne soit montée. Son don principal était une présence de Dieu ininterrompue, d'où naissait un recueillement et une modestie angélique. Son extérieur seul donnait de la dévotion. On la comparait à sainte Catherine de Gênes. La bienheureuse qui l'aimait tendrement lui prédit un jour que ce serait dans ses bras qu'elle mourrait. Ce qui est arrivé, nous le verrons d'une manière merveilleuse contre toute attente. Et comme si le feu et l'ardeur de cette sainte mourante se fussent répandus dans le cœur de notre chère sœur Françoise Rosalie Verchère, n'ayant plus le soutien de cette incomparable et vertueuse amie, elle se livra entièrement au pouvoir de l'amour divin et le 5 novembre 1690, à l'âge de 25 ans, elle fit le vœu de faire tout ce qu'elle connaîtrait être le plus parfait. Bien loin d'en être embarrassée, elle trouva toute sa vie ses chaînes infiniment aimables. Rien ne lui coûtait. Et comme Dieu aime les cœurs généreux, il répandait tant de douceur dans son âme qu'au milieu d'austérités et de croix qui font frémir, elle nageait comme en un fleuve de paix. Elle avait une sœur plus jeune qu'elle, novice aussi, Péronne Marguerite Verchère, dont nous n'avons pas retrouvé la vie. Elle était très fervente, mais vive, spirituelle, et dans ses premiers temps disputait encore un peu à Dieu la pleine possession de son cœur. C'est elle qui, parlant de la bienheureuse, dit un jour à sa sœur avec un doux sourire « Prenons bien garde, elle nous rendra plus dévotes que nous ne voulons. » Voici maintenant la grande compagne de Françoise Rosalie Verchères, née comme elle à Marcigny, et entraînée par son exemple à la Visitation, Péronne Rosalie de Farges. Amie dans le monde, encore plus dans le cloître, novices ensemble, toutes deux disciples tendrement aimées de la bienheureuse, elles la recevront mourante dans leurs bras entrelacés. Elles veilleront à sa mémoire, écriront sa vie, conserveront et recueilleront ses lettres, dignes l'une et l'autre d'une éternelle reconnaissance, mais plus encore peut-être Péronne Rosalie de Farges, qui empêcha la bienheureuse de jeter au feu son incomparable mémoire, comme elle l'avait fait pour tous ses autres écrits, et qui a conservé ainsi à l'Église un des plus rares monuments de la sainteté, et le seul, peut-être, qui permette de connaître un peu cette grande âme. Péronne Rosalie de Farges avait fait vœu de chasteté à 7 ans, mise peu après sous la direction du père de la Colombière, qui lui fit faire sa première communion comme un ange, elle entra à 16 ans à la Visitation, malgré les résistances de sa famille, une des meilleures et des plus riches de la contrée. Dès les premiers jours, elle fut confiée à la bienheureuse, qu'elle imita au plus près par la grandeur du courage et l'entreprise des vertus héroïques, ayant comme elle gravé sur son propre cœur le saint nom de Jésus, pour témoigner à Dieu la véhémence de son amour, lequel y pénétra si avant qu'elle y faisait des progrès continuels par la sainte cruauté qu'elle exerçait sur elle-même et sa charité immense pour le prochain, tournant à une fin si noble son tempérament tout de feu. Mais en imitant de si près les traits de sa sainte maîtresse, elle avait conservé son caractère propre. On la regarda longtemps comme un saint Jérôme, qui n'accordait rien à la nature, ni pour elle, ni pour les autres, différente en cela de notre vénérable sœur Marguerite Marie, dont l'air doux et rabaissé jusqu'au centre de son néant ne censurait jamais personne, et gagnait insensiblement par l'onction de ses discours. On ne saurait dire toutes les victoires qu'elle a remportées sur son tempérament vif et ardent, ayant pris pour devise « vaincre ou mourir ». Elle ne voyait que son devoir, qu'elle tâchait uniquement de remplir comme une héroïne, toujours l'épée à la main pour vaincre ses passions, qui auraient été bien fortes si elle ne les eût réprimées. Elle en vint si bien à bout que, sur la fin de sa vie, elle passait dans la ville pour une seconde Marguerite Marie, et quand elle mourut, on accourut à ses funérailles pour voir la sainte. Aux 4 novices que nous venons de faire connaître à nos lecteurs, il faut en joindre 3 autres qui n'étaient pas indignes de prendre place dans une société aussi aimable et aussi fervente. Marie-Françoise Bocot de la Clayette, qui mourut jeune et a laissé peu de souvenirs. Marie-Christine Boutier de Sémur en Brionnais, dont la vie religieuse fut comme inaugurée par un miracle. Ayant souffert pendant son noviciat d'une maladie de langueur, le jour de sa profession, elle reçut de la bienheureuse l'ordre de demander à Dieu sa guérison. Elle s'étendit sous le drap mortuaire, pâle et débile, et se releva pleine de force, le visage illuminé des vives couleurs de la santé. Et enfin une 7e, Marie-Nicole de la Fège des Claines, qui a laissé dans l'Institut un souvenir aimable et profond. C'était l'enfant de prédilection de la bienheureuse, son petit Saint-Louis de Gonzague, comme elle l'appelait. Jolie, gracieuse, bien faite, regardée dans sa famille comme une petite merveille, adulée de ses parents, dont à 10 ans elle administrait la maison, idolâtrée de sa grand-mère, on fut bien étonné quand, à 14 ans, elle demanda à entrer à la Visitation, et avec de telles instances qu'il fallut céder. À 15 ans, elle prenait le Saint-Habit et commençait son noviciat sous la direction de la Bienheureuse. Telles étaient sa faveur et sa modestie angélique que notre sainte, si sévère et si éclairée, lui fit prononcer ses vœux dès l'âge de 16 ans. Et lui mit elle et lui mit elle-même le voile sacré sur la tête. Un peu après, elle fit, toute jeune, le vœu du plus parfait, pleine de talent, de grâce, de douceur, habile à toutes sortes d'emplois, elle faisait tout avec une tranquillité ravissante. Son innocence et sa candeur étaient singulières. Elle ressemblait à un ange. Ses compagnes disaient en riant que Dieu lui avait prêté un corps. Ce fut peut-être là le motif de la prédilection que la bienheureuse eut toujours pour elle. Privilège délicat qui rappelle celui du disciple bien-aimé et qui fait le plus bel éloge de cette chère novice. Au moment de mourir, la bienheureuse l'envoya chercher, voulant avoir ce petit ange à son chevet. Au milieu de ces jeunes novices, comment ne pas distinguer et mettre dans un rang à part une religieuse plus âgée qu'elle toute, qui avait fait profession en 1680, qui remplissait dans la maison des charges importantes et qui sollicita si ardemment la permission de rentrer au noviciat que la bonne mère Melun ne sut pas s'y refuser. C'est que la sœur Anne-Alexis de Maréchal était une âme singulièrement grande, née dans le calvinisme d'une de ces vieilles et nobles familles qui, mécontentes du train des choses, se jetèrent par opposition et par espoir de réforme dans l'hérésie. Quand son père, qui voulait revenir à la vraie foi, et qui ne le fit pas par complaisance pour sa femme, fut mort, quand celle-ci, qui avait violemment empêché son faible mari de se convertir, eut cependant abjuré à la voix persuasive du père de la Colombière, et que pour décider sa fille Anne-Alexis à suivre son exemple, elle l'eût amenée en secret à la visitation, sous prétexte d'y être pensionnaire, l'enfant, s'apercevant du dessein de sa mère, éclata en fureur. Elle lui dit un torrent d'injures, et mettant sa tête sur un tronc d'arbre, criait de toutes ses forces « Coupez-moi la tête ! Je mourrai contente, plutôt que de me faire papiste et de rester avec ces loups et ces démons de religieuses. » On crut longtemps qu'il faudrait la rendre à sa mère. Elle se moquait de tout. À l'église, elle tournait le dos au Saint-Sacrement. Au jardin, elle montait sur de grands arbres et jetant de là une corde sur les murs, elle essayait de les escalader. Telle elle était alors, ardente, énergique, passionnée. Telle elle fut le lendemain de sa conversion et de son abjuration, vrai coup du ciel. Ce ne fut pas assez pour elle d'être religieuse. Elle se rejeta à corps perdu dans ce qu'il y a de plus haut dans la religion, de plus effrayant dans la vertu. La mère greffier ne lui épargna pas les épreuves, lui en donnant même d'extraordinaire qui ne lui coûtait du tout rien. Jamais elle n'était dans une plus sainte joie que quand elle était plus accablée. On serait infini si on voulait détailler toutes les austérités qu'elle s'est imposées. Elle ne quittait point la ceinture de fer, pas même en veillant les malades. Ainsi qu'en faisant la lessive et dans d'autres travaux encore plus pénibles, elle chantait tout l'office, ayant cet instrument de pénitence sur le corps, dormait avec, tant elle s'était naturalisée les macérations corporelles. Avec cela, un contentement et une certaine allégresse qui reluisaient sur son visage et qui passaient jusqu'à sa conversation, laquelle fut toujours gaie et saintement joyeuse, composant des couplets de chansons très agréables pour s'animer à une nouvelle ferveur. C'était la meilleure amie du monde et la fille la plus obéissante à ses supérieurs, étant comme une boule de cire entre les mains de Dieu et de celle qui en tenait la place. C'est ce qui faisait qu'on la mettait dans tous les emplois, grands et petits, sans qu'elle fût ni abaissée ni élevée. Elle était déjà religieuse depuis 7 ans. Lorsqu'elle demanda à rentrer au noviciat, où elle fut l'étonnement et l'aiguillon des jeunes sœurs. Tel était le noviciat de Paray au moment où la bienheureuse en prit la direction. Voilà les âmes qui lui furent confiées. Elles étaient dignes d'avoir une sainte pour maîtresse. Et celle-ci, embrasée de l'amour de Dieu et si zélée pour le répandre, ne pouvait pas désirer des éléments mieux préparés. Aussi, à peine elle fut entrée en charge, que cette sainte fille, selon l'expression de nos vieux mémoires, mit le feu de l'amour divin dans tous ces cœurs si bien disposés. Elle les anima de sa parole, les enthousiasma de ses exemples. Tantôt, elle leur expliquait simplement la règle, les observances, mais elle le faisait d'un tel ton, avec une onction si pénétrante, que toutes les difficultés semblaient disparaître. Quoique avant elle, dit la sœur de Farge, nous eussions appris toutes ces observances des trois maîtresses qui l'ont précédée, notre vénérable sœur nous les expliquait, avec une onction toute céleste, qui semblait couler du cœur même de Jésus et qui facilitait la vertu d'une manière délicieuse. Tantôt elle leur parlait de l'amour de Dieu. Mais, dit la sœur Verchère, celui qu'elle avait sur les lèvres n'était rien auprès de celui qu'elle avait dans le cœur. Elle était passionnée pour Dieu. À chaque instant, il lui échappait des cris. « Oh, si vous saviez combien il est doux d'aimer Dieu !»« Oh, qu'y a-t-il qu'on ne souffrit de bon cœur pour l'amour du prochain ?» Elle revenait si souvent sur ce point que nous la comparions au disciple bien-aimé, saint Jean l'évangéliste. Et l'ardeur de cette charité l'embrasant du zèle le plus pur, elle disait souvent qu'elle souffrirait volontiers tous les supplices pour sauver une seule âme. D'autres fois, c'était de l'humilité, de l'oubli de soi qu'elle entretenait ses novices. Mais son extérieur doux et rabaissé jusqu'au centre de son néant parlait plus éloquemment que tout discours. C'était plaisir, dit la sœur d'Éclène, de l'avoir reprise par sa supérieure. Il était impossible de recevoir une correction avec une humilité plus vraie. Et les larmes qu'elle versait sur ses moindres fautes laissaient cette impression qu'elle était morte à tout amour d'elle-même et absolument livrée à l'amour de Dieu. Le plus ordinairement, elle parlait du Sacré-Cœur. Elle, si timide et qui, par une retenue qui lui était naturelle, n'en disait pas un mot à la communauté, pas même à ses amis dont elle avait grand nombre, ni même aux supérieurs et aux confesseurs ordinaires, au milieu de cette troupe aimable et pieuse, commença à laisser parler son cœur, sans rien dire des révélations dont elle avait été honorée et qu'elle enveloppait d'un inviolable silence. Elle se plaisait à les entretenir du cœur adorable de Jésus, de sa beauté, des trésors qu'il renferme, des grâces dont il inondera ceux qui sauront le comprendre, l'adorer et l'aimer. Elle pouvait dire tout cela sans se trahir, car nous l'avons vu. Qui a mieux parlé du cœur de Jésus que saint François de Sales? Qui en a plus pieusement contemplé et compris la beauté que sainte Chantal et les premières mères de la Visitation? En parlant ainsi, elle restait donc dans le plus pur esprit, dans les plus vénérables traditions de l'Institut. Du reste, Dieu semblait à ce moment multiplier les révélations afin qu'elle comprît de plus en plus le cœur adorable de Jésus et aussi afin de donner à sa parole cet éclat, cette beauté, cette lumière, cette chaleur qui naissent sans effort sur les lèvres d'une personne émue et enthousiasmée. On se rappelle quel avait été le caractère des grandes révélations du Sacré-Cœur. Notre Seigneur lui avait apparu dans une gloire sur l'autel, la poitrine entrouverte et le cœur battant d'amour. Plus tard, comme si Dieu eût voulu concentrer ses regards sur le cœur même, ce cœur commença à lui apparaître, seul, sur un trône, dans une lumière immense. Une fois, dit-elle, ce divin cœur me fut représenté comme sur un trône de feu et de flamme, rayonnant de tous côtés, plus brillant que le soleil et transparent comme le cristal. La plaie qu'il reçut sur la croix y paraissait visiblement. Il y avait une couronne d'épines autour de ce divin cœur et une croix au-dessus. Notre Seigneur, ajoute-t-elle, m'assura qu'il prenait un singulier plaisir d'être honoré sous la figure de ce cœur de chair dont il voulait que l'image fût exposée au public afin de toucher le cœur insensible des hommes, me promettant qu'il répandrait avec abondance sur tous ceux qui l'honoreront tous les trésors de grâce dont il est rempli. Partout où cette image sera exposée, elle y attirera toutes sortes de bénédictions. Une autre fois, elle eut une révélation plus lumineuse encore, pour l'exciter à demander avec plus d'instance les adorations des hommes. Dieu lui fit contempler les adorations des anges. Un jour, dit-elle, que l'on travaillait à l'ouvrage commun du chambre, je me retirai dans un petit coin pour être plus proche du Saint-Sacrement. Mon Dieu me donnait là de très grandes grâces. Faisant donc là mon ouvrage, je me sentis d'abord toute recueillie, intérieurement et extérieurement. Le cœur adorable de mon Jésus me fut présenté plus brillant qu'un soleil. Il était au milieu des flammes de son pur amour, environné de séraphins qui chantaient d'un concert admirable. L'amour triomphe, l'amour jouit, l'amour du Saint-Cœur réjouit. Ces esprits bienheureux m'invitèrent à m'unir à eux pour louer cet aimable cœur dont je n'osais le faire. Ils me dirent qu'ils étaient venus pour s'associer avec moi afin de lui rendre un continuel hommage d'amour, d'adoration et de louange. Ils écrivirent en même temps cette association dans le Sacré-Cœur en lettres d'or et du caractère ineffable de l'amour, ineffaçable de l'amour. Cette grâce dura environ 2 à 3 heures et j'en ai ressenti toute ma vie les effets, tant par les secours que j'en ai reçus que par les suavités qu'elle m'avait fait goûter et qu'elle produit toujours en moi. Je restais tout abîmé de confusion. Je ne nommais plus les anges en les priant. que mes divins associés. Des visions semblables se montraient souvent à elle, en particulier tous les premiers vendredis du mois, dit-elle. Le Sacré-Cœur de Jésus m'était représenté comme un soleil brillant d'une éclatante lumière dont les rayons donnaient à plomb sur mon cœur, lequel se sentait embrasé d'un feu si ardent qu'il lui semblait qu'il allait réduire en cendres. Ainsi donc, dans ces lumineuses extases, voilà ce que Dieu montrait à la bienheureuse. Un cœur, et un cœur battant d'amour. Elle ne voyait plus que cela. Au ciel et sur la terre, spectacle adorable, tout se résumait en un cœur. Il y a des religions qui ont fait adorer la sagesse. Il y en a, ô aberration, qui ont fait adorer le bonheur, même le plaisir. Il y en a de plus dégradés encore, qui ont fait agenouiller l'humanité devant la force. Elles se trompaient toutes. Il n'y a d'adorable que l'amour. Même la sainteté, celle devant laquelle se prosternaient les Juifs au milieu des foudres du Sinaï, devant laquelle les chérubins se couvrent de leurs ailes, n'est pas ce qui mérite le mieux les adorations de l'homme. Elle le cède à l'amour. Et c'est là ce qui fait que le christianisme sera la religion éternelle de l'humanité. Si je dis à un homme « Je vous estime », ne puis-je pas lui dire autre chose ? S'écriait un jour un grand orateur. Oui, car je peux lui dire « Je vous admire ». Et si je dis à un homme « Je vous admire », ne puis-je pas lui dire autre chose ? Oui, car je puis lui dire « Je vous vénère. » Et si je dis à un homme, je vous vénère, ne puis-je pas lui dire autre chose ? Ai-je épuisé dans ce mot la parole tout entière ? Non. J'ai encore une chose à lui dire, une seule. La dernière de toutes, je puis lui dire, je vous aime. 10 000 mots précèdent celui-là. Aucun autre ne vient après lui dans aucune langue. Et quand on l'a dit une fois à un homme, il n'y a qu'une ressource, c'est de lui répéter toujours. De même, quand on a fait adorer la puissance, on peut faire adorer la sagesse. Quand on a fait adorer la sagesse, on peut faire adorer l'amour. Mais quand on a fait adorer l'amour, c'est fini. Il n'y a plus qu'une ressource, c'est de l'adorer toujours. Et quel est l'amour que le christianisme a fait adorer ? On aura remarqué ce que dit notre bienheureuse, que quand le cœur de Jésus lui était montré sur un trône de feu et de flamme, la plaie qu'il avait reçue y paraissait visiblement, et il y avait une couronne d'épines autour de ce divin cœur. Cette vision se représentait souvent à elle, et ce caractère d'immolation et de sacrifice s'accentuait sous mille formes. Une fois, dit-elle, ce cœur amoureux me fut montré tout transpercé et déchiré de coups. Une autre fois, ce cœur lui apparut percé à jour, ouvert comme un abîme sans fond, creusé par une flèche sans mesure. La plupart du temps, les épines de la couronne l'enserraient si étroitement et le pressaient avec tant de violence qu'il était tout meurtri et que le sang coulait à flots. C'était la traduction du mot divin de « l'imitation ». Et sine dolore non vivitur in amore. Sans douleur, il n'y a point d'amour. Chose admirable, il y a dans le cœur deux pôles, celui par lequel on jouit et celui par lequel on souffre. De ces deux pôles, il n'y en a qu'un qui est fait pour durer toujours, que nous emporterons dans l'éternité. C'est celui par lequel on jouit. Mais qui le croirait ? Ici-bas, sur cette triste terre, il faut à peine en user. Il est périlleux. Il n'est ni grand ni fécond. Si vous aspirez à la gloire, au génie, à la sainteté, laissez ce côté du cœur, ce côté divin, ce côté céleste par lequel on jouit. Son heure n'est pas venue. Il ne fait ici-bas que des choses vulgaires. Toujours la couronne de laurier a reposé sur des fronts meurtris et l'auréole de la sainteté n'a jamais ceint que des cœurs crucifiés. Comme elles étaient donc belles, ces visions, où la bienheureuse apercevait non pas seulement un cœur, mais un cœur blessé, un cœur meurtri, un cœur couronné d'épines et tout sanglant. Elle ne savait pas s'en détacher. Ce vivifiant spectacle l'élevait au-dessus d'elle-même, et ses plus longues heures, elle les employait à contempler ce cœur blessé, à essayer de pénétrer dans les ravissants mystères de l'immolation et du sacrifice. Cependant, ce n'était pas la seule forme sur laquelle ce divin cœur lui apparaissait. Il y en avait une autre, bien belle aussi, qui y revenait sans cesse. Le cœur de Jésus lui était montré comme une ardente fournaise, une fournaise d'amour. Comme un amant qui attirait les âmes, un aimant qui attirait les âmes, comme un abîme où il fallait qu'elles se plongeassent si elles voulaient se régénérer. Elle voyait quelquefois des âmes froides, des âmes glacées qui approchaient du foyer et qui tout à coup, au moment où l'on croyait qu'elles allaient se réchauffer, s'échappaient d'une fuite insensée et allaient se perdre dans les ténèbres. Elle en voyait d'autres qui arrivaient, froides, laides, flétries, et qui, au contact du cœur de Jésus, s'illuminaient, s'embrasaient et finissaient par se perdre en lui comme une étincelle dans un foyer. Un jour, le cœur de Jésus lui apparut semblable à une ardente fournaise, et deux autres cœurs s'y allaient abîmer. Elle entendit une voix qui lui disait « C'est ainsi que mon pur amour unit ces trois cœurs à jamais. » Et elle connut que c'était le cœur de son saint directeur et le sien qui s'abîmait dans le cœur de Jésus. C'était à chaque instant des spectacles pareils qui la ravissaient au-dessus de la terre et la rendaient prophétesse en lui révélant les secrets des âmes et les lois d'un monde supérieur. Comme il y a dans la nature un centre de gravité de l'univers visible, autour duquel se meuvent tous les astres, emportés vers lui et en même temps retenus par une double force qui mêle l'harmonie dans le ciel, de même, dans l'univers moral, il y a un centre de gravité immobile, immaculé, au milieu des agitations du monde. C'est le cœur de Jésus. Seulement, à la différence des astres, qui, attirés vers le centre par l'attraction, sont heureusement retenus par la force centrifuge, il faut que les âmes abdiquent cette seconde force, cet égoïsme, cette personnalité, et qu'elles se laissent emporter et abîmer dans le cœur de Jésus. Il n'y aura d'ordre, de bonheur, que lorsque nous nous serons tous perdus en lui. Voilà ce que voyait la bienheureuse, et je ne m'étonne pas qu'elle passât des nuits entières en contemplation, et que quand on la laissait, à 7 heures du soir, à genoux, au pied du tabernacle, on la retrouvait le lendemain matin à la même place, immobile, extasiée. Mais imagine-t-on ce que devait être alors sa parole, l'éclat de sa figure, l'ardeur et la passion de ses sentiments, et par suite l'éloquence enflammée qui coulait de ses lèvres. Cependant, discrète et maîtresse d'elle-même, ayant appris des livres saints qu'il ne faut pas divulguer, le secret du roi, elle ne disait rien de ses grandes révélations ou, forcée dans ses derniers retranchements, elle ne le faisait qu'à demi-mot, d'une manière obscure. Un jour que la sœur de Farge, dans toute la simplicité qui convient à une vraie fille de la Visitation vis-à-vis de sa mère, lui demandait ce qu'elle pouvait faire à genoux de si longues heures et dans une telle immobilité devant le Saint-Sacrement, elle se contenta de répondre qu'elle était tout occupée des douleurs de Jésus dans sa passion. Et comme la jeune novice insistait, « Si j'ai un corps à ce moment, répondit-elle, ou si je n'en ai pas, j'aurais peine à le dire. » Et une autre fois, se promenant avec la sœur Claude Marguerite Billet et passant près du petit bouquet de noisetiers, « Voilà, lui dit-elle, un endroit de grâce pour moi. C'est ici que Dieu m'a fait connaître le bonheur qu'il y a de souffrir par la connaissance qu'il m'a donnée de sa passion. » Et à la sœur Verchère, qui était tombée subitement malade à la suite de la défense insignifiée à la bienheureuse de continuer à faire l'heure sainte, elle révéla, pour la consoler dans sa maladie, le secret de sa prière de la nuit du jeudi au vendredi et de sa communion du premier vendredi du mois. Il n'y avait là, sans doute, rien qui pût trahir le secret des grandes révélations du Sacré-Cœur. Mais plus on avançait, plus il était évident pour toutes que Dieu la favorisait de grâce singulière, et au point où l'on en était, bien que l'on ne sût rien, il était manifeste qu'un mot, un seul mot, la moindre parole imprudente, suffirait pour tout révéler, pour amener à une pleine lumière les pressentiments obscurs qui étaient dans toutes les âmes. Ce fut ce qui arriva, et voici comment. Il y eut successivement deux lumières providentielles, l'une faible mais qui éveilla l'attention, l'autre absolument éclatante qui enleva les derniers doutes. La sœur Péronne Rosalie de Farge, qui allait entrer en retraite, vint demander à sa directrice sur quoi elle ferait son oraison pendant ce temps. La bienheureuse lui remit un livre pour l'aider. « Or, dans ce livre, dit la sœur de Farge, elle avait laissé par mégarde un billet écrit de sa main et qui contenait à peu près ces termes. « Notre Seigneur m'a fait connaître ce soir à l'oraison qu'il voulait être connu, aimé et adoré des hommes, que pour cela, il leur communiquerait beaucoup de grâce lorsqu'ils se seraient consacrés à la dévotion et à l'amour de son Sacré-Cœur. » On pense bien que la sœur de Farge ne laissa pas de montrer ce billet à ses chères compagnes de noviciat. La réputation de sainteté de la bienheureuse y trouva un nouvel accroissement, et on commença à soupçonner que ce n'était pas dans les livres qu'elle l'avait appris, ce qu'elle disait du cœur adorable de Jésus. Un peu après, une chose absolument imprévue acheva de lever tous les voiles. On se rappelle que le père de la colombière était mort depuis 2 ans, 15 février 1682. Or, parmi ses papiers, on avait trouvé les notes qu'il avait écrites pendant une retraite. Et il y avait dans ces notes un tel parfum de sainteté. Elle donnait une si belle idée de sa grande âme. Elle pouvait d'ailleurs être si utile aux personnes pieuses que les jésuites se décidèrent à les faire imprimer. L'ouvrage parut à Lyon sous ce titre « Retraite spirituelle du révérend père Claude de la Colombière ». Et un des premiers exemplaires fut naturellement envoyé à la visitation de Paris. La bonne mère Melun l'ayant reçu en fit faire, avant de le lire elle-même, la lecture publique au réfectoire, voulant satisfaire au plus vite la pieuse avidité de toutes les sœurs. Déjà, on avait presque achevé ce petit volume qui avait excité dans la communauté un véritable enthousiasme lorsqu'on arriva à un passage bien inattendu. Ce jour-là, c'était précisément la sœur Péronne Rosalie de Farge qui faisait la lecture. Après avoir dit que, pour plaire à Dieu et se rendre à sa sainte volonté, il prenait la résolution de promouvoir de toutes ses forces la dévotion au Saint-Sacrement, le père de la colombière ajoutait ces mots que la sœur lut avec une émotion croissante. « J'ai reconnu que Dieu voulait que je le servisse en procurant l'accomplissement de ses désirs, touchant la dévotion qu'il a suggérée à une personne à qui il se communique fort confidemment et pour laquelle il a bien voulu se servir de ma faiblesse. Je l'ai déjà inspiré à bien des gens en Angleterre, et j'ai écrit en France sur cette dévotion et prié un de mes amis de la faire valoir. Elle y sera fort utile, et le grand nombre d'âmes choisies qu'il y a dans cette communauté me fait croire que la pratique dans cette sainte maison en sera fort agréable à Dieu. Que ne puis-je, mon Dieu, être partout et publier ce que vous attendez de vos serviteurs et amis ?» Dieu donc s'étant ouvert à la personne qu'on a sujet de croire être selon son cœur par les grandes grâces qu'il lui a faites, et elle s'en expliqua à moi, et je l'obligeai de mettre par écrit ce qu'elle m'avait dit. J'ai bien voulu l'écrire moi-même dans le journal de mes retraites, parce que le bon Dieu veut, dans l'exécution de ce dessein, se servir de mes faibles soins. Étant, dit cette sainte âme, devant le Saint-Sacrement un jour de son octave, je reçus de mon Dieu des grâces excessive de son amour. Touché du désir d'user de quelques retours et de rendre amour pour amour, il me dit « Tu ne m'en peux rendre un plus grand qu'en faisant ce que je t'ai déjà tant de fois demandé. » Et me découvrant son divin cœur, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plus grande partie que des ingratitudes par les mépris, irrévérences, sacrilèges et froideurs qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui est encore plus rebutant, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur, en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable, communiant ce jour-là pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Et je te promets que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur. Nous avons dit que c'était la sœur Péronne Rosalie de Farge qui faisait la lecture. Dès le premier mot, elle eut tout deviné. Et, Elle jeta à la dérobée un regard sur la bienheureuse qui était en face d'elle au réfectoire. « Quand je fus arrivé, dit-elle dans sa déposition, à ce qui concerne la révélation du Sacré-Cœur, je regardais la vénérable sœur. Elle baissait les yeux et était dans un profond anéantissement. La communauté ressentit la même émotion. Non seulement la déposante continue la sœur de Farge, mais la communauté comprit alors que c'était la dite servante de Dieu qui avait fait ses prédictions. Il n'y a que la jeunesse pour ne reculer devant rien. Au sortir du réfectoire, la sœur de Farge aborde résolument la bienheureuse. « Ma chère sœur, vous avez bien eu votre compte aujourd'hui à la lecture. Que faire devant une question pareille? Le nier? Mais c'était impossible. L'avouer? » Son humilité le lui défendait. La bienheureuse baissa la tête et répondit qu'elle avait bien lieu d'en aimer son abjection. À partir de ce moment, les novices n'eurent plus de doute. Pour elles, la bienheureuse était une sainte, honorée des plus intimes entretiens de notre Seigneur. Elle se partageait des morceaux de ses vêtements, et quand la sœur Anne-Alexis de Maréchal lui coupait les cheveux, c'était à qui pourrait avoir des reliques. Il est probable aussi qu'à partir de ce jour, la bienheureuse mit un peu moins de réserve dans ses communications. Elle regarda la révélation faite par le père de la colombière comme une indication de la Providence. Et le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, elle se hasarda à attacher à l'autel du noviciat une petite image du Sacré-Cœur faite avec de l'encre. Cependant, la fête de leur sainte directrice approchant, 20 juillet 1685, les novices résolurent de la lui souhaiter avec une pieuse solennité qui répondit aux sentiments qu'elles avaient pour elle. La sainte, s'étant aperçue à temps de ces préparatifs, leur demanda en riant si elle voulait la rendre bienheureuse. Et, voyant s'épanouir le visage de ses chers novices, elle les pria que tous les hommages qu'elle se préparait à lui rendre fussent offerts au divin cœur de Jésus. Les novices comprirent, et en un instant, tous les plans sont changés. Sous un escalier que conduit à la tour, il y avait un petit réduit, fort propre à contenir un autel et à être transformé en oratoire. La sœur d'Éclène prend son pinceau, couvre les murs, les poutres, les chevrons du plancher de fleurs, d'étoiles, de cœurs enflammés que l'on y voit encore. On dresse un autel, on l'orne avec des roses et on place au milieu cette petite image du Sacré-Cœur qui était au noviciat. Avec le consentement de la mère Melun, elles avaient employé une partie de la nuit à cette œuvre sans faire de bruit, si ce n'est le matin où, ayant été préparé le réfectoire afin de se mettre en avance, elles s'oublièrent un peu dans leur joie et attirèrent l'attention de quelques anciennes. Avertie par elles, la mère Melun vint trouver les novices, mais elles lui dirent leur raison et elle en demeura contente. Elles achevèrent donc en paix leurs petits préparatifs. Sur les 7 heures après prime, la bienheureuse se rendit au noviciat. On l'entraîna, sans mot dire au petit oratoire. Elle fut à la fois surprise et ravie, remercia ses chers novices de la joie qu'elle lui faisait, leur parla d'un air radieux avec les ardeurs d'un séraphin. Puis, se prosternant devant cette image, et les faisant prosterner avec elle, elle se consacrera publiquement au divin cœur. Chacune des petites novices se consacra à son tour, en répétant les termes mêmes de la formule que la bienheureuse avait employée. Après quoi, elle les invita à se retirer un peu dans la solitude et à écrire les sentiments dont elles venaient d'être pénétrées, leur promettant d'ajouter un mot au bas de leur consécration. Toute la matinée se passa ainsi dans un pieux ravissement. Après-midi, Marguerite Marie réunit de nouveau ses novices autour de ce petit autel. Elle était encore plus radieuse que le matin. Tout le bonheur de sa sainte âme resplendissait sur son visage. Elle félicitait ses novices, bénissait Dieu. dans les transports de son amour, elle aurait voulu que tout le reste de la communauté fût venu offrir ses hommages au cœur de son bon maître. L'entendant parler ainsi, l'aimable et ardente sœur Verchère partit aussitôt, et allant trouver les sœurs qui se promenaient au jardin, elle leur raconte ce qui se passe au noviciat, et les conjure de venir offrir leurs hommages au cœur de Jésus. Elle fut assez mal reçue. Comme c'étaient des filles d'observance, écrivent les contemporaines, à la première proposition qui leur fut faite, elles la renvoyèrent bien loin, disant que ce n'était pas à de petites novices à établir des nouveautés, lui citant un point de la règle qui le défendait absolument. La sœur Verchère a dit également, dans sa déposition, « Les plus vertueuses étaient précisément les plus opposées, craintes de nouveautés. » De ce nombre était la sœur Catherine Auguste Marest, renommée par les ardeurs de sa pénitence, qui la conduisirent souvent à l'héroïsme. La sœur Marie Séraphique de la Martinière, toujours recueillie comme un ange et si tendrement unie à Dieu, que nos vieux mémoires disent qu'elle mourut d'amour, enfin et surtout la sœur Marie-Madeleine des Escures, que les manuscrits contemporains appellent sans cesse la Sainte Mère Marie-Madeleine. C'est elle qui fut la plus énergique dans son refus, quoiqu'elle fût l'amie intime de leur incomparable directrice. « Allez dire à votre maîtresse, répondit-elle à la sœur Verchère, que la bonne dévotion est la pratique de nos règles et constitutions, et que c'est ce qu'elle doit vous enseigner et vous autres bien pratiquer. » La petite sœur Verchère ne s'était pas attendue à cette réception. Elle fut bien étonnée et embarrassée. Toutefois, pour ne pas contrister sa maîtresse dans un jour pareil, elle se contenta de dire, en revenant, que les sœurs ne pouvaient pas venir. « Dites plutôt, reprit vivement la bienheureuse, qu'elles ne le veulent pas, mais le Sacré-Cœur les y fera bien rendre. » Et faisant allusion à la sœur Marie-Madeleine, elles y sont aujourd'hui opposées, mais le temps viendra qu'elles y seront les premières empressées. Ce qui arriva, en effet, de la manière la plus inattendue, avant la fin même de l'année. Au fond, en appelant toute la communauté à rendre hommage au cœur de Jésus, la bienheureuse avait raison, parce qu'elle avait reçu mission de Dieu. En refusant de venir, la mère Marie-Madeleine n'avait pas tort, parce que cette mission ne lui était encore garantie par personne, ni par le pape, juge définitif et souverain des dévotions dans l'Église, ni par l'évêque diocésain, juge en première instance, ni même par sa supérieure. Elle attendit donc, fidèle gardienne des règles, s'y tenant et faisant bien de s'y tenir, puisqu'elle n'était pas autorisée à s'en écarter, quoique, assurément, si elle eût regardé de plus près et qu'elle l'eût eue, un esprit plus large et plus ouvert, elle eut compris que cette dévotion sortait des entrailles du christianisme, et sans aller si loin, des livres même de saint François de Sales et de sainte Chantal. Mais, quoique très sainte, la mère Marie-Madeleine ne montait pas si haut. Elle représentait dans cette maison le côté positif, pratique, l'interprétation littérale, toutes choses absolument nécessaires à une communauté et les plus sûres, à condition qu'on reconnaisse que Dieu peut y mettre des exceptions et qu'on sache s'y soumettre quand la preuve sera faite. Ce qui arrivera tout à l'heure et ce qui marquera la Sainte Mère Marie-Madeleine d'une si pure auréole, car après avoir résisté, tant que la volonté de Dieu ne lui fut pas manifestée par l'organe de ses supérieurs, elle fut la première à se soumettre quand celles-ci eurent parlé. Nous la verrons bientôt se prosterner au pied du Sacré-Cœur, entraîner après elle la communauté tout entière et faire une consécration publique qui sera à la fois un acte de contrition et une amende honorable. Le reste de la journée se passa au noviciat dans une paix et un recueillement tout céleste. Sur le soir, la bienheureuse réunit de nouveau ses novices. Elle paraissait transfigurée. Nos manuscrits répètent ici le mot dont ils se sont déjà servis deux fois, n'en trouvant probablement pas d'autres qui rendent aussi bien l'impression générale. Elle avait l'air d'un séraphin. Il est probable que sa pensée devançait les temps, et que cette petite adoration du noviciat, elle la voyait se multiplier dans l'avenir, devenir universelle et perpétuelle, réchauffer l'Église, sauver la France et apporter à Dieu une nouvelle et plus grande gloire. La bonne mère Melun, qui avait permis toute cette fête, voyant de quelle manière elle était reçue dans la communauté, crut devoir s'effacer par prudence. C'était une fille paisible, en douceur, sans égale, dont la grande condescendance la faisait nommer la vraie fille de saint François de Sales, nom qu'elle s'était acquis par l'imitation des vertus de ce grand saint. Elle vint sur le soir, quand les novices furent retirés, trouver la bienheureuse, et... En lui permettant de continuer à adorer et à prêcher le cœur de Jésus au noviciat, elle lui défendit, afin de calmer les esprits, de rien faire qui pût paraître aux yeux de la communauté. La bienheureuse obéit. D'abord parce qu'elle obéissait toujours. Ensuite, parce que, ayant jeté un regard sur le cœur adorable de son bon maître, elle crut entendre une voix qui lui disait « Ne crains rien, ma fille, je régnerai malgré mes ennemis et ceux qui voudraient s'y opposer. » D'ennemis, il n'y en avait point au monastère, puisque c'étaient les plus vertueuses qui faisaient de l'opposition crainte de nouveauté. Mais on ne tarderait pas à en rencontrer dans le monde, et la manière dont le cœur de Jésus en triompherait et régnerait malgré eux allait être la grande preuve que le doigt de Dieu était ici.